Vous écoutez, on lit pour vous.
Un rendez-vous littéraire qui redessine l'été éditorial. Un texte de Joséanne Paradis paru le 10 juin 2025 dans les libraires. Qui aurait cru qu'un simple appel à acheter un livre québécois, lancé sur Facebook, bouleverserait 12 ans plus tard le calendrier éditorial d'un pan entier de l'industrie du livre? Si le 12 août est désormais bien ancré dans les habitudes de lecture estivale, il est aussi devenu un jalon stratégique pour les maisons d'édition, les libraires et les diffuseurs. Mais qu'a-t-il véritablement changé? Nous avons posé la question à quelques figures clés du milieu. Patrick Petitclerc, BTLF, Frédéric Gauthier, La Pastèque, Judith Landry, Québécois, et Arnaud Foulon, HMH. Un phénomène de librairie. C'est d'abord à travers les chiffres que le 12 août révèle sa puissance. Patrick Petitclerc, directeur des ventes et développement pour Gaspard à la BTLF, scrute chaque année les palmarès de vente de cette journée pas comme les autres. Par rapport au titre le plus vendu, toute édition du 12 août confondue, il nous confie « Je suis surpris du grand gagnant, ce n'est pas Cocoum, ni la femme qui fuit, comme je le croyais, mais bien Rosalil de Rabagliati, paru en 2023. » Il est sorti en librairie précisément la semaine du 12 août, ce qui a entraîné des ventes monstres le jour même en 2023, éclipsant tous les bons vendeurs récurrents des autres années. Ce coup d'éclat n'est pas tombé du ciel. Frédéric Gauthier, co-directeur des éditions de La Pastèque, lève le voile sur une stratégie assumée. Pour Rosalil, c'était effectivement totalement prévu que le livre paraisse le 12 août. Nous misions sur cette journée qui est devenue un incontournable depuis quelques années. Compte tenu également que nous avons toujours misé sur les libraires pour le développement de notre catalogue, il était naturel pour nous d'imaginer une stratégie autour du 12 août pour ce titre qui était un peu hors norme pour Michel Rabagliati, vu son format différent et son approche novatrice. Arnaud Foulon, vice-président à l'édition et aux opérations du groupe HMH, reconnaît également le rôle que l'éditeur, qui a comme devoir de faire rayonner ses auteurs, doit jouer dans cette importante journée. Les gens veulent se faire conseiller en livres québécois cette journée-là précisément. Il est donc du devoir des éditeurs de s'assurer que cette journée saura donner de la visibilité à ses auteurs et autrices. En ce sens, oui, au groupe HMH, nous prévoyons souvent la publication d'un titre par maison, Urtubise, XYZ, Multimonde, BQ, pour cette date. Pas que du roman. On souhaite chaque année diversifier les genres littéraires auprès de nos libraires de partout au Québec et idéalement promener nos auteurs et autrices dans les librairies cette journée-là aussi pour aller à la rencontre de leurs lecteurs et lectrices. La rentrée qui n'en est plus une. L'un des effets les plus réjouissants du 12 août, c'est sans doute qu'il a redonné à l'été un rôle actif dans la vie littéraire québécoise. Frédéric Gauthier insiste. Le 12 août redonne aussi une énergie dans l'été et crée une dynamique commerciale qui vient solidifier toute la chaîne du livre. Car, impossible de le nier, le 12 août a été capable d'avoir un impact sur la notion même de rentrée littéraire. L'été, jadis zone plutôt grise et tranquille dans le calendrier des parutions, est de plus en plus un espace de choix convoité. Arnaud Foulon l'affirme également sans embâge. D'abord et avant tout, le 12 août a devancé la rentrée littéraire au Québec. L'événement ouvre la saison qui va s'étirer jusqu'au Salon du Livre de Montréal, qui, lui, paradoxalement, est de plus en plus tard. Donc, alors qu'il y a 5-6 ans, notre saison s'étendait de la première semaine de septembre à la deuxième de novembre, aujourd'hui, elle débute la semaine avant le 12 août pour se terminer la dernière semaine de novembre. disons qu'on a repoussé les frontières. De son côté, Judith Landry, directrice générale du secteur livre chez Québécois, tempère cette vision. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle devance la rentrée littéraire. Il faut davantage le voir comme l'avant-propos d'une rentrée qui reste foisonnante, tant en librairie que dans l'espace médiatique, à partir de la mi-septembre. Cela étant dit, on constate que la notion même de saison littéraire a tendance à s'étirer. On remarque plus de parutions dès le mois d'août pour la saison d'automne et les saisons de printemps s'étendent bien souvent jusqu'en juin. C'est une tendance de plus en plus forte qui rend moins anachronique les livres qui paraissent durant le mois d'août. Mais une chose est claire, les éditeurs ne peuvent plus ignorer le 12 août. Chez Québécois, comme chez HMH, cette date est désormais inscrite dans les programmes de parution au même titre que les grands salons du livre. Et chez La Pastèque, elle influence directement le calendrier. Nous tentons de placer stratégiquement chaque année un titre pour cette journée, affirme Frédéric Gauthier. D'ailleurs, pour l'édition 2025, c'est l'album d'Emily Harrow et Geneviève Godbout, intitulé « Chère librairie », célébrant justement les librairies, tout comme tous ceux qui les aiment, qui aura la vedette. Chez HMH, plus question pour des représentants et représentantes et des éditeurs et éditrices de terrain de prendre des vacances la semaine du 12 août. Il faut être au poste, en librairie, pour soutenir nos auteurs et autrices et l'ensemble de la production québécoise, de chez nous et d'ailleurs. Oui, le tout occasionne plus de travail pour toutes les équipes, en librairie comme en édition. Mais on est tellement content de voir le succès remporté par les livres d'ici, de voir les romanciers-romancières, les illustrateurs-illustratrices, les poètes-poétesses québécois-québécoises tasser des cubes de l'entrée des librairies, les écrivains étrangers, le 12 août et bien souvent aussi les semaines suivantes, qu'on ne compte pas les heures. Ce n'est que du plaisir, se réjouit avec raison Arnaud Foulon. De l'initiative citoyenne au jalon stratégique, le 12 août a opéré une mutation que peu d'initiatives culturelles peuvent revendiquer. Il n'a pas remplacé la rentrée, mais l'a certainement précédé, préparé et prolongé. Il n'a pas détrôné les grands auteurs étrangers, mais il leur a volé la vedette le temps d'une journée et parfois de plusieurs semaines, et a même redoré le blason de notre littérature auprès de lecteurs qui en avaient oublié les richesses. Surtout, il a cristallisé une forme de fierté autour du livre québécois et a fédéré un milieu autour d'un objectif commun, voir les livres d'ici rayonner dans l'imaginaire collectif. De nouvelles parutions à surveiller. Comme on disait, plusieurs livres paraissent maintenant plus tôt afin d'être en librairie lors du 12 août. En plus de « Chères librairies » d'Emily Harrow et Geneviève Godbout chez La Pastèque, dont on vient de vous parler, et « d'Oasis » de Marie-Christine Chartier chez Urtubise, qu'on vous mentionne ici, il faudra porter attention, entre autres, au recueil de poésie de Gabriel Filto-Chiba, « La robe en feu » chez XYZ, ainsi qu'au nouveau roman de Naomi Fontaine, « Eka Achaté, ne flanche pas », chez Mémoire d'Encrier, de Maureen Martineau, Une nuit d'été à Little Brook, chez Héliotrope, d'Anne Genet, Le dénuement, chez Stanquet, et de Joël Martel, Le chien ne meurt pas à la fin, chez La Mèche. Marie-Cécile Abrèche signera un livre dans la collection 3, Ne pas aimer les hommes, chez Québec-Amérique. Deux premiers romans seront à découvrir. « Ce qui se passe en moi aura lieu de toute façon » de Julie Benoît aux éditions du Quartz et « Entre ici et toi » chez Kairos, une romance de Karen Landry. Du côté jeunesse, Stéphanie Boyer proposera un album avec les illustrations de Samuel Quentin, « Turbulence dans le jardin » chez Fonfon. L'ouvrage récompensé du prix Robert Clich devrait aussi arriver en librairie le 6 août. Soyez à l'affût. Ce n'est évidemment pas une liste exhaustive. N'hésitez pas à vous tourner vers votre libraire pour faire d'autres découvertes. C'était un rendez-vous littéraire qui redessine l'été éditorial, un texte de Joséanne Paradis, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires.
L'avenir réserve davantage de zoonoses à Montréal, un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 11 mars 2024 dans Le Devoir. La température moyenne de la région de Montréal pourrait grimper de 2 à 4 degrés Celsius entre 2041 et 2070, selon le scénario le plus pessimiste de réchauffement climatique. Les cas de maladies de Lyme et de virus du Nil occidental pourraient alors se multiplier dans la métropole. Certaines espèces de moustiques subtropicales pourraient même s'installer dans le sud du Québec d'ici la fin du siècle, transportant avec elle de nouvelles zoonoses, comme la dengue. C'est ce que signale, entre autres, la Direction régionale de santé publique, DRSP, de Montréal, dans son premier portrait climatique intitulé « Évaluation de la vulnérabilité de l'agglomération de Montréal au changement climatique », un document de 130 pages. D'ici 2050, toutes les régions du Québec, à l'exception du Nord, devraient voir la présence du virus du Nil occidental augmenter de 10 % dans leur population de moustiques à cause des changements climatiques et des températures qui favorisent un habitat amélioré pour les vecteurs, indique au Devoir Alexandre Barry, toxicologue à la DRSP de Montréal et co-auteur du rapport. 5 cas humains de virus du Nil occidental ont été confirmés dans la métropole en 2023, selon le ministère de la Santé et des Services sociaux. Souvent asymptomatique, cette infection peut toutefois provoquer des symptômes comme de la fièvre ou des céphalées. Dans moins de 1 % des cas, elle entraîne des atteintes neurologiques graves, telles qu'une encéphalite. Outre ce virus, la bactérie causant la maladie de Lyme pourrait aussi gagner du terrain. En effet, la tique, qui peut en être porteuse, verra son aire de répartition s'agrandir et sa population s'accroître sous l'effet du réchauffement du climat. Si on se base sur les projections pour la moitié du siècle, on s'attend vraiment à ce que le sud du Québec soit endémique en ce qui concerne la tique, dit Alexandre Barry. 7 cas de la maladie de Lyme ont été déclarés à Montréal en 2022, selon l'Institut national de santé publique du Québec. Cette infection, qui se manifeste d'abord par une rougeur, peut provoquer de la fièvre, de la fatigue, ainsi que des douleurs musculaires. Si elle n'est pas traitée, l'infection pourrait se propager aux articulations, au cœur et au système nerveux. Dans son rapport, la santé publique souligne que des troubles de santé mentale peuvent aussi apparaître chez les personnes atteintes, telles que la dépression, l'anxiété et la panique. La menace de la dengue. Avec les changements climatiques, le territoire montréalais pourrait aussi devenir viable pour des populations de moustiques porteuses de la dengue. Souvent asymptomatique, cette maladie peut notamment se manifester par de la fièvre, de violents maux de tête et, dans les cas graves, des saignements légers et des vomissements persistants. Elle entraîne rarement la mort. La problématique, c'est surtout de se retrouver avec des éclosions un peu partout sur l'île de Montréal parce qu'on va avoir un vecteur présent, dit Alexandre Barry. Ce vecteur peut, par exemple, piquer une personne infectée et aller la transmettre à 2 personnes autour, ce qui risque d'augmenter les consultations médicales, ajoute-t-il. Selon la DRSP de Montréal, certaines populations sont davantage vulnérables aux zoonoses, dont les enfants de moins de 14 ans, qui ont des comportements plus risqués, pouvant mener à une infection, courir dans des herbes longues, par exemple. Les personnes immunodéprimées ou atteintes de maladies chroniques sont, quant à elles, plus à risque de développer des symptômes graves du virus du Nil occidental. Idem pour les aînés, en raison de leur sensibilité plus grande aux infections. La Santé publique de Montréal compte se baser sur son rapport « Évaluation de la vulnérabilité de l'agglomération de Montréal au changement climatique » pour rédiger un plan d'adaptation régionale au changement climatique qui sera présenté en 2027. C'était « L'avenir réserve davantage de zoonoses à Montréal », un texte de Marie-Ève Cousineau, paru le 11 mars 2024 dans Le Devoir.
Marinette Pichon, la superstar française à la tête des roses. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 22 juin 2025 dans le magazine Fugue. Vedette française du foot féminin qui fut parmi les premières athlètes de l'Hexagone à parler ouvertement de son homosexualité et qui a été sacrée meilleure joueuse de la National Women's Soccer League aux États-Unis au début des années 2000, Marinette Pichon est désormais directrice sportive des Roses de Montréal dans la Super League du Nord. Quelles émotions vous habitent à l'idée de lancer une équipe et une ligue de soccer féminine? C'est l'ascenseur émotionnel. Au début, je pensais au privilège de faire partie de cette aventure et de pouvoir contribuer. Après, tu redescends, tu te demandes comment faire, avec quels moyens et quelles personnes. C'était plein d'émotions galvanisantes et de remises en question chargées d'humilité. Sentez-vous déjà que les Roses ont une personnalité différente des autres équipes? On voulait amener au cœur du projet la culture du bien-être, de la bienveillance, de la réussite, de l'acceptation des échecs et des efforts. Je ne peux pas me permettre d'évaluer les autres, mais je sais qu'on va dans la bonne direction. Je pense qu'on le sent sur le terrain, comme lors du match d'ouverture à la maison, quand on était mené 1-0 et qu'on a inversé la tendance pour gagner 2-1. S'il n'y a pas cette chimie entre les joueuses, il n'y a pas cette réussite. L'équipe marketing fait-elle des efforts pour rejoindre les communautés LGBTQ+? On est inclusive, on n'a pas de jugement, on estime qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est important que les personnes puissent être elles-mêmes quand elles vivent une expérience avec nous. Mais si on devait prendre en compte toutes les communautés, religion, LGBTQ+, culture, ça risquerait de nous écarter du projet sportif et d'envoyer des messages qui pourraient être perçus négativement par d'autres. Vous vivez au Québec depuis 2019. Qu'est-ce qui vous a amené ici? En France, ma compagne et moi avions des jobs hyper prenants. Je travaillais presque 7 jours sur 7 comme directrice générale au Paris FC en tant que consultante pour France Télévisions et à la direction de mon académie que ma femme faisait rouler. Avec tout ça, il ne restait plus trop de temps pour la famille. Un jour, ma femme a fait une reconversion professionnelle en coach de vie et elle m'a demandé « Toi, qu'aimerais-tu faire maintenant? » Qu'avez-vous répondu? J'avais l'impression d'avoir fait le tour en France. J'avais aimé mon expérience en tant que joueuse professionnelle aux États-Unis et je voulais revivre à l'étranger. On a discuté, elle voulait choisir un pays francophone et le Canada est venu naturellement pour ses actions dans le développement du football féminin. J'ai postulé pour 5 jobs. J'ai reçu 3 réponses, dont celle du directeur général de l'Association régionale du Lac-Saint-Louis. 6 ans plus tard, on est très heureuse de notre choix. Comment vivez-vous l'ouverture du Québec aux personnes queer? Ça fait 20 ans que je suis avec ma femme. On vit notre homosexualité. On ne veut pas que les gens la valident, mais on veut la vivre tranquillement. Ici, au Canada, le naturel des gens est respecté. Le fait de se tenir la main dans la rue, de s'embrasser ou autre. En France, malheureusement, de jeunes couples gays se font encore tabasser. En 1980, qu'est-ce qui vous a poussé à faire vos débuts au foot? Je me baladais avec ma mère sur la rue. On a entendu des gamins tellement heureux de jouer au foot. J'ai tiré sa main pour aller voir. J'ai regardé les enfants et j'avais des étoiles dans les yeux. Elle m'a demandé si je voulais jouer. J'ai dit oui. Au même moment, un éducateur m'a remis un dossard en me demandant si je voulais jouer. Comme j'étais déjà stéréotypé, je lui ai répondu que je ne pouvais pas, parce que j'étais une fille. À 5 ans, je ressentais déjà le poids de la société. Finalement, je suis allé sur le terrain et je me suis éclaté. J'étais déjà doué, et je me sortais d'un environnement familial très pesant, avec un père violent et alcoolique. C'est devenu un exutoire et une drogue. À l'époque, pouviez-vous seulement jouer avec les garçons? J'ai joué avec des garçons exclusivement jusqu'à 16 ans. J'étais la petite chouchou. J'avais mon vestiaire. Les joueurs étaient adorables. J'ai entendu 2 ou 3 remarques sur la présence d'une fille au foot, mais pourquoi pas? J'ai 2 pieds, 2 jambes, je peux jouer comme eux. Je faisais partie de l'équipe. Ensuite, j'ai joué avec une équipe de foot féminin. En 1994, j'ai reçu le premier appel pour jouer avec l'équipe de France. En 2002, je suis allé jouer aux États-Unis. À ma première année, j'ai été élue meilleure joueuse de la Ligue. Ça a envoyé un message aux joueuses d'Europe que c'était possible. Plusieurs ont suivi mes traces depuis. Combien d'années se sont écoulées entre le moment où vous avez compris que vous aimiez les femmes et le moment où vous avez décidé d'en parler? Quand j'ai commencé à regarder ma prof de sport à 14 ans d'un œil différent, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui clochait. Ensuite, j'ai eu mon premier baiser en sélection régionale à 16 ans. Cette fille m'a envoyé des déclarations d'amour par courrier et ma mère est tombée dessus. Après s'être demandé ce qu'elle avait loupé, elle m'a dit que j'étais sa fille et qu'elle voulait mon bonheur. Puis, un jour, en équipe nationale, on m'a demandé si j'étais gay et j'ai répondu que oui. Je ne voulais pas rentrer dans un mensonge qui dure des années. Je préférais me foutre de l'opinion des gens. On entend souvent que le monde sportif est homophobe et que la France est macho. Vous avez connu les deux de l'intérieur. Qu'avez-vous vécu? Comme j'avais une forme de notoriété, je n'ai jamais vécu de choses directes, sauf un abruti dans les tribunes qui m'avait traité de lesbienne en me disant que je devrais arrêter de jouer au soccer. Cela dit, j'ai entendu la peur du coming out, la peur du rejet, la peur du refus et la peur d'être vu d'une autre façon. En plus de développer le foot féminin, de vous expatrier et de défricher les mentalités en tant que joueuse homosexuelle, vous avez composé avec des violences à la maison pendant des années. Cette adversité a-t-elle fait émerger des parts de vous-même qui n'existeraient pas autrement? C'est sûr, si je n'étais pas passé à travers tout ça, j'aurais peut-être moins de sautes d'humeur. J'ai besoin d'être accompagné pour gérer ces émotions-là. Cela dit, ma détermination, ma rigueur, mon respect et ma capacité à affronter les obstacles, je les ai développés grâce à ça. Par opposition à mon père, la vie que je mène avec ma femme, mes 2 enfants, nos amis et la famille est saine et très stable. C'était Marinette Pichon, la superstar française à la tête des roses. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 22 juin 2025 dans le magazine Fugue.
Visiter Kyushu et aller à la rencontre de maîtres artisans. Un texte de la rédaction paru le 18 avril 2024 dans Voyageurs du Monde. Près du tropique du Cancer, la chaleur règne et les volcans frémissent. Pêcheurs de calamars et maîtres artisans cultivent leur tradition au cœur d'un Japon tranquille et rural. S'il vous venait une envie de chaleur, pensez à Kyushu au Japon. Savez-vous que cette île, la plus à l'ouest de l'archipel, est à la latitude de l'Égypte? Et qu'elle est aussi plus grande que la Belgique? Il y a tant à faire. L'idée serait dérivée par Nagasaki, qui fut le point de contact au 19e siècle entre le Japon et les barbares occidentaux. L'idée serait aussi de flâner sur le port, chercher des traces de l'époque des comptoirs portugais ou hollandais. Et pourquoi ne pas en profiter pour voir l'émouvant musée de la bombe atomique, mémoire de la folie des hommes? Plus au nord, Fukuoka, balcon sur la mer de Junkai, est souvent cité pour avoir l'une des meilleures qualités de vie au monde. Qui en douterait, après avoir goûté l'héritage des voisins chinois, les fameux tonkotsu ramen? Butaya, dans le quartier Akata, est célèbre pour son bouillon crémeux nourri d'os de porc dont la saveur touche au fameux umami. Toute l'âme du Japon dans un bol. Reste ensuite à visiter le FAAM, le musée d'art contemporain, et le MAT, centre d'art dessiné par Kengo Kuma. Le soir, la tournée des yatés, ces petites roulottes de fast-food, est tout indiquée. Sur la petite île voisine de Nokoshima, une horde de jardiniers taille les massifs avec tant d'amour et de minutie que l'on se croirait dans un film d'animation de Miyazaki. Kushu se dévoile enfin. Champs de riz ponctués de sublimes bâtisses ancestrales, aux toits de chaume ou maisons en bambou. Sur cette île, allez à la rencontre des maîtres. Ils sont une poignée à entretenir de séculaires traditions. Ceux qui ont hérité des Sud-Coréens le savoir-faire d'une céramique fine comme du papier, ou ceux qui tissent dans une soie miroitante les obi, précieuses ceintures pour kimono. D'autres artistes pratiquent la teinture indigo, colorant le paysage de ce bleu profond qui incarne si bien le Japon. Même si tout le pays palpite d'une activité souterraine, Kyushu est particulièrement pimenté par une activité volcanique permanente. Les amoureux de la marche en montagne adoreront randonner dans un cratère actif. Les contemplatifs préféreront fréquenter d'autres fumerolles, celles des 3000 sources de Beppu, invitant à se prélasser dans les onsen. Tout au sud, vers Kagoshima, d'autres flaques d'or chaudes jaillissent des rochers bordant l'océan. Au loin, défilés de tortues, dauphins et pêcheurs de crabes violonistes. C'était « Visiter Kyushu et aller à la rencontre de maîtres artisans », un texte de la rédaction paru le 18 avril 2024 dans « Voyageurs du monde ».